La lutte pour la banane équitable, voilà maintenant 20 ans qu'Alistair Smith la mène. Dans les années 90, ce spécialiste de la production et du commerce de la banane a mis à jour les terribles conditions sociales, salariales et sanitaires des travailleurs de la banane dans les pays producteurs et notamment en Amérique latine. Depuis, il a mené des campagnes de sensibilisation des consommateurs et œuvré pour construire un processus fiable et amener à la banane équitable puis durable. Noël Fantoni lui a demandé pourquoi il considérait la banane comme l'exemple même d'une économie inéquitable.
Ben, parce que en Grande-Bretagne, à l'époque, là je parle d'il y a 20 ans, on avait à peu près les deux tiers du marché qui étaient fournis par des petits producteurs des îles au vent, des îles au vent, les windlords, comme on les appelle aujourd'hui en français. Il y avait une seule compagnie qui avait le monopole de la commercialisation de ces bananes sur le marché britannique. Pour nous, ça c'était un des exemples parce que les petits producteurs recevaient très peu du prix final au consommateur. Pour nous, c'était un exemple classique du commerce inéquitable. Il y en avait plein d'autres. Mais c'est aussi parce que c'est une filière très relativement courte. C'est-à-dire qu'il n'y a que le mûrissage qui se passe entre le producteur et le consommateur. Et donc, c'est assez facile à comprendre pour un consommateur que comment fonctionne cette filière, quoi.
Alors, qu'est-ce qui gagnait de l'argent, finalement? C'était les grands distributeurs?
Si on parle d'il y a 20 ans, c'était les compagnies fruitières, les multinationales fruitières.
Lesquelles, par exemple?
Oh ben, il y avait à l'époque, il y avait Gist, il y avait la Five qui est irlandaise, et puis les trois américaines assez connues, la Chiquita, Dole et Del Monte. Voilà, c'est eux, ils prenaient la part du lion jusque dans les années 90, je dirais, du gâteau ou des bénéfices dans la filière.
Et
mais
c'était
ça
même...
a changé à partir de grosso modo de 2000, l'an 2000.
Et c'était le même circuit, par exemple, pour les bananes françaises qui venaient de Guadeloupe?
Ben, c'était très similaire, sauf que, bon, c'était des bananes françaises, donc c'était pas techniquement parlant, c'était pas des bananes importées, c'est parce que ça venait du département d'outre-mer de la France. Mais oui, grosso modo, eux, ils recevaient pas forcément une partie très importante du prix final au consommateur.
Alors, qu'est-ce qui a changé en 20 ans, quoi, puisque vous dites que ça a changé dans l'an 2000?
Bah, ce qui a changé, c'est, disons, vers la fin des années 90, et surtout les années 99 et l'an 2000, il y a eu une crise, entre guillemets, tout le monde en parle, mais bon, c'est une vraie crise de surproduction, donc plus de 7-8% de bananes excédentaires, on va dire, sur le marché mondial. Pour plusieurs raisons, essentiellement climatiques. Maintenant, les compagnies fruitières ont très peu de puissance comparée à un Carrefour, un Tesco ou un Walmart.
Alors, le problème s'est déplacé vers la grande distribution plutôt que vers les grandes compagnies.
Ça s'est déplacé vers le haut, pas vers les consommateurs finaux justement, parce que c'est eux qui gardent les portes au consommateur final, c'est la grande industrie qui prend la plupart des bénéfices dans la filière.
Alors vous avez œuvré justement pour que tout cela change et vous avez œuvré pour créer un circuit qui permette à la banane de commencer à devenir un peu équitable.
Bon, pas commercialement, hein. Je souligne que notre rôle, c'était pas un rôle commercial. On n'a jamais fait d'importation ni d'exportation, commercialisation de la banane. Nous, on a travaillé au niveau d'éducation, de sensibilisation des consommateurs et de solidarité, on va dire, travail solidaire avec les petits producteurs et les travailleurs de plantation. De plus en plus avec les travailleurs de plantation parce que c'est eux qui est le maillon faible, comme à l'émission de télévision, mais le maillon faible, c'est les travailleurs de plantation. Pas parce qu'ils sont faibles en eux-mêmes, mais parce que ils n'ont pas de pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs employeurs, qui sont des planteurs nationaux ou internationaux, qui sont sous pression maintenant, comme j'ai essayé d'expliquer, de la grande distribution et des prix que propose la grande distribution.
Alors, est-ce que vous avez réussi?
Qui sont au début de la filière et qui en reçoivent, disons, la partie la plus inéquitable du
gâteau.
Combien
en pourcentage, par exemple?
Oh, ça tourne entre 2 et 3, typiquement 2 et 3. Ça dépend. Si c'est à la Martinique, c'est un peu plus haut, hein. Mais typiquement, pour une banane latino-américaine ou africaine, c'est entre 1,5 et 3%.
Est-ce que vous avez réussi, est-ce que certaines personnes ont réussi à créer un marché, je dirais, parallèle qui permette justement aux petits distributeurs de profiter d'un commerce équitable?
Bon, mais il y a un commerce équitable labellisé qui, dans certains pays comme la Suisse, est très important. C'est 50% du marché, c'est pas rien. Donc, c'est pas un marché de niche. Grande-Bretagne, c'est à peu près presque un quart du marché. Donc, c'est le deuxième marché le plus grand en Europe. Donc, c'est pas négligeable non plus. Et moi, je dirais que pour les petits producteurs, ce commerce équitable labellisé avec la marque Fairtrade, Max Havelaar, etc., qu'on connaît, est très réussi. Pour les plantations, on est un peu moins convaincu que le modèle marche très bien. Pour le moment, on a des critiques sur ce modèle et on essaie d'améliorer la chose pour que les bénéfices soient canalisés vraiment aux travailleurs de plantation qui sont les destinataires.
Justement, dans ce type de marché de commerce équitable, combien revient en pourcentage à ce moment-là aux producteurs?
Bon, aux producteurs ou aux travailleurs, parce qu'il faut différencier. Hein. Alors, si on peut en prendre, je sais pas, une banane qu'on peut trouver dans la plupart de la grande distribution française qui est bio et équitable de la République dominicaine. Donc on peut prendre cet exemple, mais on va voir que à peu près entre 4 et 5% va aux travailleurs qui sont en général des travailleurs migrants haïtiens. Et disons que du prix final, entre 10 et 12% va aux petits producteurs. Il y a des petits, il y a des moyens aussi, hein, mais si on parle de la filière petits producteurs, avec un ou deux saisonniers, c'est pas le mot, mais des travailleurs temporaires qui travaillent peut-être 2-3 jours à la semaine dans la petite exploitation d'un hectare dans en République dominicaine, ça serait comme ça, hein. Grosso modo, 4 ou 5 pour le travailleur et jusqu'à 12 pour le producteur, donc qui est employeur de ces travailleurs, pas saisonniers.
Des journaliers, on appelle ça, oui, des journaliers.
Ouais. Oui. Journalier, oui.
Est-ce que les grands distributeurs vous ont mis des bâtons dans les roues?
Ça dépend quel pays. Et moi, je dirais qu'en France, ils étaient un peu lents à prendre l'initiative, si on peut le dire comme ça. Des bâtons dans les roues, oui, très clairement, aux Pays-Bas, où ça a été lancé en 96. Le lendemain de du lancement où les bananes équitables ont capté 10% du marché du jour au lendemain, les distributeurs avec, en connivence avec les multinationales fruitières à l'époque, on parle de 96, hein, ils ont fait des baisses de prix qui faisaient que la différence entre le prix d'une banane équitable et le prix d'une banane conventionnelle était énorme. Donc les consommateurs ont bien voté avec leurs pieds, comme on dit en anglais, et puis la part de marché a baissé de 10 à 4 en une semaine. Donc ça, c'était le premier exemple, mais ça, on parle d'il y a longtemps, et de plus en plus, les distributeurs veulent, pour leur image de marque, entre autres, notamment, avoir des bananes équitables. Mais il y a des stratégies différentes dans le marché britannique. C'est une stratégie d'avoir une banane équitable conventionnelle, qui est beaucoup plus facile à trouver, parce que des bananes équitables bio, il n'y en a pas beaucoup, parce que la bio, c'est difficile pour des raisons techniques, on va dire. Mais des bananes équitables conventionnelles dans le marché britannique, c'est pas la même stratégie que les distributeurs du continent européen, Benelux, France, Italie, etc., qui veulent absolument que leurs bananes alternatives, entre guillemets, soient bio et équitables.
D'accord.
Alors, veut que ce soit les deux, c'est plus compliqué. Et ils font une marge supérieure, etc. Donc, c'est deux stratégies commerciales différentes avec des résultats différents.
Il y avait un autre aspect du problème, c'était que la production était totalement agrotoxique avec des pesticides, la dégradation des eaux, etc. Est-ce que tout ça a changé aussi aujourd'hui ?
Pas suffisamment. On a vu les exemples des BCP, donc c'était un nématicide utilisé dans les années 70. Dans toutes les plantations du monde, depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux Philippines via toute l'Amérique latine. Et puis on a vu plus récemment le scandale du chlordécone, insecticide. Et malheureusement, on n'a pas ces deux produits, mais on a d'autres produits, notamment les insecticides et les nématicides, qui sont les plus toxiques et qui sont horribles en termes de l'impact sur la santé humaine. On n'a pas fini, et puis avec une monoculture qui est dominée par une seule variété, presque 100% du commerce international, c'est une seule variété ou une famille de sous-variétés, c'est génétiquement extrêmement vulnérable.
Donc monoculture, ça veut dire biodiversité en danger.
Les pesticides, ça continue en grosse quantité avec des dangers à tous les niveaux, à tous les jours. Oui, malheureusement, on essaie faire évoluer ça, mais c'est lent.
Donc monoculture, ça veut dire biodiversité en danger.
Ça veut dire pas de biodiversité, c'est pas que la biodiversité en danger. Même un serpent n'ose pas pénétrer dans une plantation de bananes. Il n'est pas fou, le serpent.
Si vous désirez en savoir plus sur ce sujet, nous vous recommandons la lecture de la saga de la banane, l'ouvrage d'Alistair Smith, paru aux éditions Charles de Léopold Mayer.